Votre maire au micro, Sandra Creusetet, vous êtes maire du Coteau depuis 2020. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Dois-je vous appeler tout d'abord Madame la mairesse, Madame la maire, Madame le maire?
Alors, moi j'aime bien Madame le maire.
Madame
Mais
le
j'ai
maire.
Beaucoup de gens qui disent Madame la mairesse.
Oui.
Mais je vous le redis, je préfère Madame le maire.
Le maire, pas la maire.
C'est... La presse écrit Madame la maire, je trouve pas ça très très joli, parce que le maire étant une fonction. Après, la mairesse, à la base, c'est l'épouse du maire.
L'épouse, voilà, c'est ce que et j'allais dire.
Je ne suis donc plus mairesse.
Bien, mais vous faites de la politique depuis plusieurs années,
ouais.
Et alors, est-ce que c'est plus dur pour une femme de s'imposer dans ce monde-là?
Ah, écoutez, je pense que c'est aussi une question de caractère. C'est pas forcément une question de genre, hein, masculin ou féminin. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte que dans le milieu politique, même si vous avez la parité, évidemment, c'est quand même un milieu essentiellement masculin. Donc les femmes qui sont là, parfois, ne sont pas forcément bien prises au sérieux. Mais quand elles ont du caractère, bizarrement, la gente masculine, eh ben, écoute peut-être davantage.
Mmh. Alors, est-ce que Madame le maire est sensible aux causes féministes que défendent les collectifs rouennais, par exemple, nous toutes, les colleuses, les journées du 8 mars consacrées aux droits des femmes approchent? Vous y participerez d'une façon ou d'une autre?
Alors, écoutez, sensible de fait, parce que le respect, bien évidemment, en tant que femme, à celles qui se sont battues, hein, surtout, et qui ont fait parler d'elles pour faire que les femmes comme moi, aujourd'hui, hein, de ma génération, soient évidemment libres et aient le droit de s'exprimer en toute liberté. Maintenant, sur les causes des différentes associations rouennaises, alors je n'ai pas été interpellée, je ne suis pas forcément non plus au fait de ce qui se passe. J'ai juste pu, effectivement, suivre l'affaire des colleuses. Hein. Moi, je pars du principe que l'on soit un homme ou une femme, on peut engager des actions, on peut être investi dans le milieu associatif ou la cause politique, peu importe, on choisit son combat. La seule chose, c'est de le faire avec beaucoup de respect et de croire en ce qu'on fait.
En tout cas, au Coteau, c'est le centre social qui a accueilli les associations féministes de Roanne auxquelles le maire Yves Nicolin n'a pas voulu donner de salle.
Bah, écoutez, le centre social, c'est une association, hein, qui a effectivement les locaux de la ville à disposition, mais dans le cadre d'une convention, hein, c'est leurs locaux. En tant que maire de la ville, moi, je n'ai pas du tout à exprimer quelconque désaccord ou pas, hein, sur le fait que le centre social, sur le principe, en plus, je vais même vous le dire, Philippe, vous me l'apprenez. Donc, parce que le centre social, voilà, est vraiment une association libre, hein, qui exerce dans le cadre d'une certaine compétence ses actions et qui a de manière tout simplement officiel des locaux de la ville. Donc du moment qu'ils ne font pas de bêtises, j'ai envie de vous dire, ils font ce qu'ils veulent.
Ils font ce qu'ils veulent, mais bon, il y a des subventions de la municipalité, j'imagine, pour le centre social.
Alors, c'est une subvention, attention.
Non.
C'est une subvention dans le cadre d'une convention tripartite où on est plusieurs, hein, acteurs, et notamment la CAF. Il y a également Roanne Agglomération, hein, qui subventionne. Néanmoins, nous, on subventionne dans le cadre d'une compétence que on leur a déléguée au titre des luditants, la compétence du périscolaire. C'est dans ce cadre-là qu'on conventionne. Le reste des bâtiments ou leurs charges à l'intérieur ou de fonctionnement, c'est eux qui sont les gestionnaires.
Voilà, ils font ce qu'ils veulent.
Mais il ne faut pas qu'il y ait de soucis.
Vous avez entrepris un certain nombre de choses, hein, donc dans votre commune, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, à peu près à mi-mandat, de quoi êtes-vous la plus fière?
Franchement, d'avoir une super équipe. La chose dont je peux être le plus fière en tant qu'élue, c'est d'avoir autour de moi, surtout en tant que maire, une super équipe. On a des élus au Coteau qui sont vraiment en action depuis le début, hein, du mandat. Même si vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est de l'humain, hein, c'est du management, hein, aussi, hein, quand vous êtes à la tête d'une ville avec une équipe, surtout qu'on est 29. Mais j'ai vraiment des élus au boulot pour leur population, pour leur ville. Et grâce à ça, justement, tout ce travail d'équipe, c'est qu'on est arrivé en 3 ans, 4 ans maintenant, peut-être à donner un dynamisme, une impulsion à la collectivité. Mmh. Et en mettant en place des projets type les berges de Rhin, hein, qui
Alors,
vont bientôt ouvrir.
Rhin, ouais.
On a mis en place ces structures de jeux aquatiques, hein, qui ont fait le bonheur des petits et grands, et voilà, tout l'été dernier. On a quand même engagé des projets de rénovation également, hein, de bâtiments. Alors bon, vous savez que la grêle, fatalement, étant passée par là, voilà, il a fallu qu'on agisse. Mais de redonner peut-être une image à cette ville qui a un rôle essentielle en termes de centralité à l'échelle du canton, c'est quand même dans le cadre de l'agglomération, c'est quand même la deuxième ville, si vous voulez, où il y a un tissu économique hyper important. Il y a une surface, certes, petite, mais en termes de population et en termes de commerce et d'activité économique, on pèse beaucoup. Et à l'échelle de centralité, aujourd'hui, le Coteau a trouvé sa place, je pense, largement au niveau
et,
de l'agglomération.
Et dans les actions qui touchent à la sécurité, donc la mise en place d'un policier municipal, des choses comme ça.
Alors, c'est pas un policier municipal, c'est quatre.
Quatre. Alors, voilà.
On a créé une police municipale. Mmh. Et ça, effectivement, c'est un engagement que j'avais au début de mon mandat. Et j'ai été très, très soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce titre-là, hein, avec le président Wauquiez, où on a mis en place des polices municipales et des les caméras, en fait, tout le système de vidéoprotection et ce partenariat avec le centre de protection urbain de la ville d'Orouane. Mais des fiertés, il y en a plein. Mais vraiment, celle qu'il faut retenir, c'est qu'on ne change pas une ville et on ne dynamise pas quand on est tout seul. On le fait parce qu'on est plusieurs.
Alors, un poste important, sinon le plus important pour le maire, c'est le budget, je suppose. Il conditionne tous les projets et c'est vous qui donnez l'impulsion, l'orientation. Donc, vous répondez, que répondez-vous plutôt à ceux qui, dans votre position, vous reprochent de ne pas avoir de vision, alors je cite, hein, écologique, sociale et démocratique?
Je leur réponds que... on est à la tête de la ville et que s'ils reprochent cela, dont ils ont le droit, hein, parce que sinon ils seraient dans mon équipe, hein, écoutez, je leur souhaite peut-être de gagner en 2026, s'ils envisagent de se représenter. Néanmoins, aujourd'hui, je suis à la tête de la ville et quand on me reproche de ne pas avoir ambition ou de donner un certain dynamisme ou une certaine projection d'investissement, je rigole. Quand vous voyez que le Coteau a changé en 3 ans de temps, 4 ans, alors que la plupart des gens vous disent, et de ces gens qui étaient dans l'opposition, qui étaient déjà des élus pour certains avant, où il ne se passait rien avec un retard de voirie de plus de 20 ans d'âge, par exemple, même plus, des infrastructures vieillissantes de plus des années 60 sans avoir eu de travaux de rénovation et autres, hein, tout simplement, du cadre de vie. Écoutez, après, la vision écologiste, moi, je pars du principe qu'on fait beaucoup d'écologie au bon sens dans mon équipe avec Thierry Collet. Vous voyez, quand on fait le projet du mandat de biodiversité, où on est plutôt salué au point d'être en négociation pour une subvention telle le FEDER, c'est quand même l'Europe derrière, c'est pas rien. Où vous êtes valorisé quand vous avez 3 fleurs comme ça, alors que vous postulez à 2 et que vous avez en plus 2 abeilles au prix apicité, que vous créez avec les différentes FEDER, comme les chasseurs et les pêcheurs, des projets environnementaux tels que réinvestissement d'une mare et le fait de réempoisonner le Rhin, écoutez, moi je pars du principe, et quand on met un plan 700 arbres hein, quand même, je pars quand même du principe qu'on fait de l'écologie, mais c'est du
l'écologie.
Bon sens.
Et, mais la rénovation énergétique des bâtiments publics, par exemple, comme ça a été fait à Rouen.
Mais elle est dans le cadre. Mais on n'est pas non plus sur les mêmes timings, c'est-à-dire que moi je ne peux pas comparer la ville du Coteau avec celle de Rouen. Celle de Rouen, vous avez une ville qui a un budget bien plus important que celui du Coteau, c'est en plus la ville-centre, avec un autre type d'infrastructure. À l'échelle du Coteau, et dans le cadre de la planification et des orientations qui sont faites et qu'on nous demande, puisqu'il y a des décrets qu'on doit évidemment se mettre aux normes, ça sera entrepris. Quand on me parle du fonds vert, oui, ok. Mais il y a des inscriptions qu'ils ont faites.
Donc c'est aussi dans les projets à venir.
Mais de fait, mais pas que le Coteau. C'est national. Donc quand on me dit ça, je veux bien, mais on est tous les maires logés à la même enseigne. On doit tous se mettre peu à peu aux normes. Et d'ailleurs, les nouvelles infrastructures qui émergent, elles sont aux normes au regard des demandes et des orientations des décrets tertiaires et autres.
Une commune, c'est aussi un tissu associatif et l'on connaît l'importance des associations sur l'ensemble du territoire. Alors au Coteau, allez-vous mettre le nez dans les comptes de celles qui demandent des subventions?
C'est-à-dire qu'on a commencé, effectivement, je m'en suis exprimée il y a une quinzaine de jours, puisque vous parliez, Philippe, de budget et que je suis en plein arbitrage avec mon exécutif pour le budget qui sera voté le 19 mars. Avant le débat d'orientation budgétaire, j'ai été scotchée et je m'en suis bien exprimée sur le fait de voir des associations qui ont des dizaines de milliers d'euros sur les comptes.
Et alors, vous parlez de quelles associations?
Je ne peux pas vous le dire, parce que je ciblerai des gens.
Mais dans quel domaine? La culture, la solidarité, le sport?
Non, mais dans différents domaines. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être d'autres types d'associations, où à un moment donné, il y a une réalité qui fait tout simplement jour aujourd'hui dans la gestion des collectivités, c'est le denier public. Et il y a une réglementation quand vous êtes une association loi 1901. Il y a un cadre légal aussi qui est imposé. Donc, je veux bien qu'on vienne nous demander de l'argent, mais je veux qu'on soit clair sur l'orientation donnée et le pourquoi on le demande. N'oublions jamais qu'au Coteau, les infrastructures appartiennent à la municipalité, elles sont mises à disposition. Rares sont les associations qui payent un loyer. Celles qui payent un loyer, c'est celles qui n'ont pas de locaux, parce qu'effectivement, ça peut arriver.
Mais dans un budget, j'imagine que ça n'est pas le poste des associations qui coûte le plus cher. Ça pèse combien dans le budget total, les associations ?
Dans tout le poste budgétaire, c'est du fonctionnement. Je crois qu'on est à plus de 280 000 euros, là.
Mais en pourcentage, donc, est-ce que c'est vraiment là, je veux dire, qu'il faut faire des économies ?
Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche, Philippe. Non. C'est-à-dire que si vous me parlez vraiment technicité budgétaire, c'est un poste dans le cadre d'un budget de fonctionnement, si qui compte, en fonction de la ligne d'arbitrage. Si, c'est un chapitre. Donc, quand vous regardez la gestion, pour celles et ceux, effectivement, quand vous gérez des millions, mais il n'y a pas qu'une question comme ça qu'il faut se poser. C'est en fonction des chapitres, en fait. Et oui, au niveau des associations, nous, la logique que l'on a prise, c'est déjà d'aider tout le monde. En aidant tout le monde, on est aussi obligé de regarder certaines choses. Et à l'heure où un budget de fonctionnement diminue, parce que c'est le cas, c'est moins de 3 millions pour nous en 10 ans, on est obligé de regarder tous les postes budgétaires. Maintenant, la plupart des associations sont aidées. Dans les subventions, c'est une chose, mais jamais on me parle des subventions directes. À quel moment on nous parle du bien qu'on met à disposition, des fluides que nous payons ? Mais ça aussi, c'est du budget de fonctionnement. En fait, ce que vous oubliez quand... ou les gens oublient quand ils nous parlent, parce que c'est très technique, c'est que moi, je vous donne un chiffre en termes de subventions numéraires. Mais on est...
Vous ne calculez pas,
plus...
voilà.
Oui, parce qu'on est à plus de 2 millions, je crois, d'ensemble de gestion de bâtiments, sachant que vous avez aussi les impôts dessus. Donc, si vous voulez vraiment qu'on pose sur la table sur un budget de fonctionnement, le coût du milieu associatif, et il est nécessaire, ce milieu associatif, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'on se dise les choses. Quand vous demandez de l'argent au denier public, il faut accepter le deal en face, qu'on soit clair sur les comptes.
C'est très clair. Un point important qui touche toute la population est de plus en plus problématique, la santé, les déserts médicaux. Alors, au Coteau, il y a un centre de santé. Comment fonctionne-t-il ?
Alors, effectivement, c'est un centre de soins non programmé. Alors, il fonctionne 7 jours sur 7, hein, de 10h à 22h. Et ce ne sont pas des médecins traitants. C'est-à-dire que nous, on a souhaité répondre, et aux côtés de Philippe Proust, hein, qui est médecin urgentiste et à la tête de ce dispositif, on a souhaité répondre à l'urgence médicale au niveau du Rouennais. Effectivement, à l'échelle aussi de notre bassin de vie, de notre territoire. Mais je le rappelle, ce ne sont pas des médecins traitants. C'est l'urgence médicale qui est prise en charge par des professionnels, des médecins, mais en aucun cas... des médecins qui vont vous garder en tant que patiente elle-même.
Et vous n'avez pas envisagé, comme Marie-Orge, de salarier un ou plusieurs médecins traitants, justement ?
Non, alors ça c'est une question effectivement qui peut se poser et un débat qu'on pourrait peut-être avoir. Vous savez, en tant qu'hospitalière moi-même, je n'ai pas forcément, dans le cadre de ce qu'est un médecin, son serment d'Hippocrate, la raison pour laquelle il a embrassé la vocation du médecin. Et moi, j'en ai côtoyé toujours hein, dans le cadre de mes fonctions. Même si j'étais juriste, le corps médical, je connais quand même très bien. Il y a un moment donné, je ne suis pas sûre que ce soit la charge de la collectivité comme ça de le rémunérer. Parce qu'au moment où il a fait ses études universitaires et ce qu'il a choisi d'effectuer comme carrière, c'était pas au niveau, à mon avis, d'une décision de travailler pour une mairie. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être alors, s'il faut se poser la question, mais à mon petit niveau, je n'ai pas de réponse, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra encadrer différemment. Mais salarier un médecin comme ça, sous le principe même, au même titre qu'un fonctionnaire municipal de la territoriale, pour moi, c'est illogique dans la règle de la gestion municipale.
Quelquefois, il faut peut-être arriver à des décisions exceptionnelles pour répondre aux besoins de la population.
C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai pris le pari, et avec Philippe Proust, de créer effectivement ce centre de soins non programmés, qui répond justement à la gestion médicale. Mais quand vous me donnez l'exemple de Riorges, il faut quand même savoir, alors sauf si ça a changé depuis, auquel cas je m'en excuse, ce sont quand même des médecins en retraite qui ont pris du temps salariat parce qu'il n'y a personne. Et je vous le redis, sauf si c'est une erreur de ma part et qu'entre-temps, ils ont trouvé des jeunes médecins qui s'installent. Les infos que j'avais...
Je crois qu'il y en a qui vont s'installer. Plus.
Mais les infos que j'avais, c'était de en tant que maire, je fais revenir déjà des médecins en retraite parce que je n'arrive pas à trouver des médecins traitants qu'on salarie au titre du denier public alors qu'ils ont déjà effectué leur carrière professionnelle. Et que parce que justement, il y a une urgence, ils reprennent du service. Voilà, c'est une réponse en tout cas. On peut saluer de la part de mon collègue maire de Riorges, hein, Jean-Luc Chamin, on peut saluer le fait qu'il se soit bougé pour essayer de répondre à une urgence médicale. Est-ce que dire que c'est la panacée aussi ? Non.
Alors, un autre sujet de santé qui va tous nous toucher, ce sont les EHPAD. Et ce qui inquiète beaucoup la population, c'est la privatisation des activités médico-sociales. On en a beaucoup parlé, de l'EHPAD de Bonvers et de la résidence Aurélia de Roanne. Alors que votre collègue maire de Roanne, Yves Nicolin, qui va déléguer cela au privé par, dit-on, manque d'argent public. Alors vous vous êtes déclaré contre cette décision. Alors vous ne croyez pas ce que disent les politiques, qu'il n'y aura pas d'augmentation de coûts pour les familles, parce que c'est ce qu'on nous répond, et qu'il n'y aura pas non plus de réduction d'effectifs de personnel. Donc vous ne croyez pas à ça?
Alors combien de temps vous me donnez, Philippe, pour que j'exprime ce projet? Parce que ce n'est pas en deux minutes qu'il faut que je vous fasse une réponse.
Vous avez tout le temps que vous voulez.
Ok. Alors ce sujet du médico-social, croyez bien que je le connais, et à mon avis plus que bon nombre d'élus du Rouennais. Pourquoi? Parce que ma fonction professionnelle en tant que juriste, au sein de l'hôpital, ayant la spécialité de la gériatrie, exerçant pour le médico-social, je connais évidemment les difficultés que l'on rencontre. Aujourd'hui, quand on a eu l'annonce effectivement au niveau des hôpitaux que Bonvers et Aurélia seraient à terme basculés au privé, évidemment j'étais contre, mais pour plusieurs raisons. La première, c'était vis-à-vis des fonctionnaires hospitaliers, des gens qui ont fait le choix d'embrasser la carrière du public, et je vous redis, je sais de quoi je parle. Pour certaines raisons, la défense du service public et certaines valeurs. Aujourd'hui, passer dans le privé, ça voudrait dire une chose, c'est une négociation à mettre en place alors qu'ils avaient embrassé un statut privilégiant certaines choses par rapport à d'autres. Mais c'était un choix personnel de la part des collègues. Quand ils sont venus me trouver, c'était évidemment la première chose. C'est-à-dire que c'est toute une organisation juridique à mettre en place. Ce qui a déplu, c'est le fait qu'au niveau du conseil de surveillance, il y ait cette annonce de la part du président, et effectivement vous l'avez nommé Yves Nicolin, de dire c'est comme ça, boum, on passe ça. Mais à quel moment on envisage de se mettre autour de la table avec les personnels et de dire « Vous êtes des fonctionnaires hospitaliers, vous embrassez la fonction publique pour certaines raisons, on remet en cause totalement votre statut et c'est comme ça. »
Mais circuler. Si ça ne change rien pour leur salaire.
Mais attendez, c'est pour ça que je vous dis, Philippe, vous voulez qu'on parle de sujet, on parle. Par contre, il faut être très clair sur les termes qu'on emploie et comment on connaît les dossiers. Parce que ça ne change rien sur votre salaire, c'est une erreur.
C'est faux.
Puisque par définition, du privé, vous avez des conventions collectives et du public, vous êtes assis au régime et à la valorisation du statut du fonctionnaire. J'ai expliqué lors d'un conseil communautaire que j'étais très bien concernée. Pourquoi? Parce que même moi, j'ai fait fusionner pourtant deux entités publiques et tout le travail que ça nous a demandé avec notre avocat communal pour mettre tout le monde d'accord, alors que c'était des fonctionnaires de la municipale CCAS, donc la ville, à l'hospitalière EHPAD. On a créé au coteau avec l'EHPAD et le foyer résidence une seule structure juridique au moment où il y en avait deux. Ça m'a pris plus de 9 mois de travail, de concertation pour accepter que des agents de la fonction publique territoriale passent à la fonction publique hospitalière. Et pourtant, c'est de la fonction publique.
Là aussi, ça va prendre du temps,
j'imagine. Mais pas les mêmes avantages. Ça va prendre du temps. Mais maintenant, au début, c'était pas ça. C'était c'est comme ça et pas autrement.
Donc finalement, ça a évolué, finalement.
Bah, évidemment, parce qu'il a fallu s'exprimer. Donc, le fait d'avoir effectivement exprimé que j'étais contre, ça a permis cette avancée, et j'en suis ravie pour les collègues, le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu, parce qu'en conseil communautaire, on en a reparlé après, il y a eu cette avancée positive.
Et le coût pour les familles?
C'est un autre sujet et je vais y venir. Mais il faut quand même terminer sur le statut des personnels. Aujourd'hui, l'avancée, c'est laquelle? Ceux qui sont fonctionnaires hospitaliers restent. Ceux qui souhaitent partir, partent. Et les nouveaux arrivants seront du privé. Et bon, bah voilà. Moi, ça me paraît être quelque chose de cohérent. Donc, c'est une avancée. L'autre chose sur les familles, qu'on ne vienne pas me dire que lorsque vous passez dans le privé, il n'y a pas une augmentation de coût. Mais il n'y a pas que ça dans le sujet du coût. C'était le sujet de l'aide sociale. Quand c'est passé au conseil de surveillance, personne n'a parlé des aides sociales. Personne n'a parlé de ces familles dont le département de la Loire paye les frais parce que les personnes sont dans l'incapacité de pourvoir justement à ces frais d'hébergement. Donc
ça continue, ça?
Ah non, à la base, il n'y avait pas de négociation aide sociale. Aujourd'hui, il y a eu un courrier du département de la Loire qui dit que les personnes à l'aide sociale seront autorisées. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il y ait des accords, parce que ça engage justement des coûts derrière. Et sur l'ensemble du projet, la seule chose que j'ai demandé, moi je peux comprendre qu'il y ait une vision différente. Là où j'ai du mal à comprendre, vraiment, c'est qu'on fasse les choses si rapidement, sans mettre les gens autour de la table.
Comment ça se passe à l'EHPAD du Coteau, justement? Alors, donc il est géré par la municipalité, l'EHPAD?
Non, c'est fonction publique hospitalière.
Fonction publique hospitalière.
Établissement médico-social.
Voilà. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse accueillir les familles, parce que ça, c'est une demande du collectif EHPAD 42, qu'on puisse accueillir les familles dans une amplitude horaire plus large. Actuellement, c'est de 14h à 18h. Alors, elles demandent, par exemple, le matin, ou de pouvoir passer le temps de midi avec un de leurs parents.
Alors, au
Coteau, c'est de 14h à 18h. Alors, ça, c'est une demande précise. Pourquoi c'est pas possible?
Parce que j'imagine... Alors, vous savez, moi, je suis le maire d'une ville, hein, absolument pas ni le médecin coordinateur, ni le directeur. Hein. Le maire n'a pas du tout... C'est pas parce que c'est le président du conseil de surveillance, d'administration, en ce qui concerne un EHPAD, que c'est lui qui fait la loi dedans. Mais quand, vous savez, les services de soins, au moment... Vous savez très bien que le matin, c'est les soins. J'imagine
Les soins qui durent en moyenne entre 16 et 18 minutes, d'après une étude. Alors, on dit que peut-être les familles pourraient quand même visiter leurs parents, même en cas de soins, et attendre. C'est des choses très concrètes, mais c'est une forte demande. Et il n'y a pas que l'EHPAD du Coteau
qui est concerné. Voilà, parce que vous me parlez du collectif. Effectivement, c'est l'ensemble des EHPAD.
C'est une étude qui a été faite sur plus de 30 EHPAD dans la Loire.
Mais moi, je vais vous dire, franchement, Philippe, moi, je gère... une mairie.
Oui, mais ça en
j'ai
dit long.
Aucun problème sur le principe.
Oui.
Si en face, les personnels ou les directeurs et les médecins disent, bah oui, les familles peuvent venir plus tôt parce que dans le cadre de la gestion des soins et de l'accueil des familles, ça peut se faire. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, ça ne me dérange absolument pas.
Oui, mais justement, si derrière, il y a une volonté politique, du maire en l'occurrence, pour dire, écoutez, faites un effort pour l'accueil des familles, je veux dire que ça en dit long sur nos sociétés qui ne veulent pas voir ce qui se passe en EHPAD, parce qu'il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi tous les dysfonctionnements possibles et le manque de considération qu'on a pour cette population.
Alors, maintenant, si vous voulez qu'on ait un échange là-dessus, je vais vous dire, je suis encore plus sensibilisée, évidemment, par ce type de discussion que l'on a, parce que je les prends très au sérieux. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir engagé au titre de ma fonction professionnelle, et je vous le rappelle, je gérais même un service de protection judiciaire des personnes vulnérables. Donc, je peux vous dire que si vous voulez qu'on aborde des sujets de maltraitance et autres dans les établissements, je peux le faire, mais autour d'une émission très précise.
Bien sûr, mais là, ne serait-ce que sur le droit de visite, c'était pas grand-chose.
Mais vous avez dans vos propos soulevé d'autres choses,
oui.
C'est-à-dire que vous venez de vous exprimer en disant de choses que l'on pourrait cacher ou autres en
pas clair. Cacher,
autour d'une organisation. La question des horaires, j'ai envie de vous dire, si ça permet aux familles de venir et que ça ne gêne pas l'organisation du quotidien...
Vous seriez pour.
Il y a un cadre, voilà. Moi ça ne me dérange pas. Maintenant, si c'est pour, effectivement, venir dans les EHPAD, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent au regard de ce qui peut se passer, notamment dans ces structures-là, dont on sait qu'il y a parfois... et dans certaines, et avérer des choses, et ça a été ma fonction aussi professionnelle.
Tout comme dans les crèches, entre parenthèses.
C'est un débat. Et moi, je ne le nie pas.
C'est un débat, mais voilà, c'est aussi une volonté politique. Alors, vous êtes là en tant que maire, donc vous représentez le politique. Donc
oui,
il y a des choix qu'on peut faire.
Oui, mais
de
Philippe,
budget,
je suis le maire du Coteau. Je ne suis pas le président du département de la Loire. Et il faut comprendre qu'un établissement type EHPAD, médico-social, est géré dans le cadre du département de la Loire.
Alors, vous voulez dire que les maires ont de moins en moins de pouvoir, finalement?
En tout cas, les maires n'ont jamais été, d'ailleurs, et je pense que... Ou alors, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionnent ces dispositifs-là. Hein. Le maire n'a jamais été celui qui avait le pouvoir dans les structures médico-sociales. Le maire, c'est, entre guillemets, le chef du village, mais dans ce village, il y a plein d'acteurs, il y a plein de choses qui jouent. Et bien, le département de la Loire, c'est la compétence médico-sociale, c'est les EHPAD. Moi, le foyer résidence, au moment où il était municipal, effectivement, dépendait de ma compétence et de ma responsabilité. Il ne faut pas... Les institutions, si vous voulez qu'on parle des institutions, la région, c'est le lycée, le département, c'est aussi le collège, la mairie, c'est les écoles. Voilà. Et bien, les EHPAD relèvent d'une compétence départementale. Donc, les conseillers départementaux et le président du département, le politique concerné. Le maire est un acteur parmi ce politique concerné, évidemment, mais pas celui qui décide.
Tout autre chose. Cette semaine, on a appris qu'une grande surface, Discount, Aldi, pour ne pas la nommer, allait remplacer le Lidl sur une friche, j'ai oublié son nom, un Lidl qui a déménagé. Alors, c'était quelque chose que vous souhaitiez dans votre programme. Là encore, donc, la politique, c'est donc de faire des choix. Alors, vous faites plaisir aux habitants qui peut-être réclamaient une grande surface, mais vous décevez forcément des commerçants déjà fortement impactés par l'inflation. Et donc, là, il y a une petite contradiction, parce que vous aviez dit « j'incite la population à pousser les portes de nos commerces de proximité pour contribuer aux dynamiques de notre ville ». Et donc aujourd'hui, vous acceptez qu'une grande surface s'installe.
Alors, effectivement, j'entends ce que vous dites et je lis les articles. Mais pardon, Philippe, si vous me citez des commerçants, parce que ça a été le cas des boulangers, on parle d'Aldi qui arrive au coteau. Effectivement, on n'avait plus Lidl. Aldi arrive, mais 2025, les inquiétudes... Aldi n'est pas un boulanger. En plus, on a eu un point presse hier très très précis où ils ont expliqué ce qu'il y avait en raison. Je veux bien que les gens...
Ils vont pas vendre de pain ?
Mais quand vous poussez la porte du boulangerie, quel type de pain vous achetez ? Ils l'ont dit très clairement, du pain surgelé à Aldi parce que vous faites vos courses de première nécessité. Celui qui va chez le boulanger, Philippe, je suis pas sûre que ce soit celui qui achète le pain d'Aldi. Maintenant, vous savez, les boulangers, j'ai même écouté quand le Carrefour City s'est installé. Est-ce que les boulangers ont eu différemment de soucis ? Maintenant, il faut se dire les choses très claires. Crier toujours avant que les choses se fassent, c'est peut-être effectivement une certaine mentalité. Moi, quand je vous parle du commerce de proximité, mais Aldi est un commerce de proximité. Moi, la population, je suis désolée, si vous lisez le programme, on a parlé de Lidl. Tout le monde a demandé à ce que Lidl revienne, mais Lidl ne peut pas revenir, il est parti à Rouen. Mmh. Donc l'offre de discounter équivalente, c'est Aldi. Mais Aldi vient au coteau. Mais en plus, il ne sera plus à Péreux. Il vient au coteau. C'est du commerce en proximité. Et oui, on porte le commerce, mais le commerce attire le commerce. Quand vous faites venir un commerce avec des logements derrière, parce que c'est un projet d'ensemble, ça n'est pas qu'Aldi. Parce que si les commerçants parlent, bah, à quel moment ils disent « oui, mais on gagne de la population ?» Des futurs consommateurs aussi, peut-être. Vous savez, le commerçant, il voit sa gestion propre. Le maire, il a l'intérêt général, la vision d'ensemble de la gestion d'un territoire, d'une ville. Moi, je rééquilibre l'offre de commerce qu'il y avait, puisqu'elle n'était plus en 2018, quand 2018 ou 2019, je ne sais plus, quand Lidl est parti. Le fait qu'elle y revienne, on réinstalle l'offre qui a toujours eu lieu qui a, dans la ville du Coteau. Mmh. Et au grand bonheur de la population, d'ailleurs.
Oui, oui, justement, mais ça ne va pas plus que ça déséquilibrer le commerce de la rue de l'avenue de la Libération, qui connaît des hauts et des bas, surtout des bas.
Mais l'avenue de la Libération et au niveau national, Philippe.
Oui, non, mais là, on parle du Coteau.
Voilà, mais on parle du Coteau. Mais maintenant, il y a aussi des facteurs qui font qu'il y a certains commerçants qui ferment rideau. Est-ce que... Aujourd'hui, pour ceux qui ont fermé rideau, est-ce que c'était dû à Aldi ? Il n'est même pas là. Est-ce que demain, le boulanger qui fait du bon pain et qui a toujours travaillé, qui en plus gagne de la population et qui, parce que le coteau est un vrai rôle de centralité et qu'on a drainé du commerce, on en a installé 22, nous, en 3 ans de temps.
Il n'y a pas que les boulangers, d'ailleurs.
Ben, il n'y a pas que les boulangers qui s'inquiètent.
Oui, qui s'inquiètent, je veux dire. Oui.
Mais qui d'autre s'inquiète ? Puisque aujourd'hui, moi dans ce que j'ai lu aussi, et pour avoir vu beaucoup de commerçants, il y a d'autres commerçants qui vous disent à l'inverse, mais encore heureux qu'il vient. Parce qu'on préfère qu'ils viennent au coteau et d'avoir les gens sur le coteau pour consommer sur une offre globale, plutôt qu'ils aillent ailleurs. C'est aussi une réalité.
Votre maire au micro, Sandra Creuset, était avec nous sur RVR. Un autre sujet sur lequel vous étiez plutôt critique au début, c'est la collecte des déchets lorsqu'elle a été mise en place par l'agglo. Alors, un démarrage difficile, on le sait, en raison d'un manque de bacs de tri, mais aujourd'hui c'est mieux, non ?
Aujourd'hui, on peut plutôt saluer, effectivement, Philippe, que des efforts ont été faits. Je pense, et je maintiens, et je m'en suis encore exprimé il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on a été trop vite sur cette mise en place de collecte. Il y a effectivement le fait de répondre à l'obligation de l'État. Hein. Le souci n'est absolument pas là. Mais les gens, effectivement, n'étaient peut-être pas préparés. Il y a eu des soucis de bac. Je pense que les circuits ont été peut-être travaillés beaucoup trop vite. Ça a été les difficultés qu'on a rencontrées, notamment en milieu urbain. il y aurait fallu différencier ce côté rural de ce côté urbain. Oui, moi je le revendique.
Ça n'a pas démarré au même moment entre les zones rurales et les villes. Hein.
Bah, c'est surtout que quand ça a démarré dans les villes en plein été au mois de juin, on s'est retrouvé avec les conséquences que l'on a eues. Et vous le savez, avec les chaleurs sanitaires et les difficultés qu'on a subies. Après, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Je salue le fait qu'avec les collègues, on ait revu, parce qu'on a revu le système de collecte.
Actuellement, c'est combien de temps au coteau? C'est une fois par semaine?
Alors, on a, en centre, suivant certains secteurs, on a remis une fois par semaine. Après, vous avez la quinzaine pour le bac jaune.
Le bac jaune, voilà. La quinzaine.
Mais tout ce qui est alimentaire, effectivement, dans certains quartiers, mais pas dans tous. En fait, ils ont vraiment privilégié le côté très central urbain. C'est-à-dire qu'ils ont exonéré au niveau plutôt de l'habitat type des plaines, hein, vous savez, le côté quartier. Là, ils sont restés à 15 jours. Mais pour tout vous dire, j'ai même redemandé dernièrement un réajustement de ça. Hein, parce que j'ai des riverains qui me font encore des remontées. En fait, on est plutôt en phase test. On essaye de voir si ça va, si ça va pas. Mmh. Néanmoins, voilà, je vous le dis, quand on change comme ça et des grosses compétences comme celle-ci, voilà, faut aussi accepter que les erreurs de démarrage soient là. Donc, je salue plutôt le fait qu'on ait voulu rectifier le tir. Mmh.
Les élus agressés, alors il y en a de plus en plus, y compris dans la Loire et dans les zones que l'on croyait jusque-là plus tranquilles. Qu'est-ce que cela dit encore de notre société? Alors il y a la violence dans les EHPAD, la violence dans les stades, la violence dans les écoles, elle est partout aujourd'hui.
Alors effectivement, c'est un sujet nous préoccupe toutes et tous, et j'ai des pensées pour mes collègues en tout cas qui les ont subies. Alors je l'ai moi-même subi au titre plutôt d'insultes.
Ou ça sur les réseaux
Non, en direct, parce que je demandais à une personne de rouler moins vite, hein, et en plus elle avait un enfant dans la voiture, mais moi, on avait une audience foraine et ça avait été un sujet. Néanmoins, je sais que j'ai des collègues dans la Loire, et je pense à Julien Luya Firmini, ou alors notre collègue aussi maire de Machezal, c'est Chira Simon, qui s'était fait violenter, Pierre de Vedeux à Saint-Alban. C'est terrible, en fait. Parce que, vous savez, nous, on est là, c'est un engagement, en fait. Et il faut que les gens arrivent à comprendre, mais peut-être qu'ils ne le comprendront jamais. L'élu que vous avez devant vous, c'est quelqu'un qui embrasse la volonté de vouloir aussi donner de son temps au service des gens. Qu'on fasse de la politique, peut-être plus comme moi, par rapport à d'autres élus, ok. Mais on donne de notre temps, quand même, pour l'intérêt général.
Un sondage indique que 70% des Français se disent, alors, un, dégoûtés, et deux, méfiants vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Hein. Alors, à Saint-Étienne, l'affaire du chantage à la vidéo intime qui a éclaboussé le maire Gaël Berdriau ainsi que d'autres élus n'a pas fait du bien, j'imagine, pour la politique. Alors là aussi, vous étiez pour qu'il démissionne, je crois.
Et
il n'a pas démissionné.
Je persiste et je signe. Redites-moi, en fait, les statistiques.
C'est 70% des Français qui se disent, un, dégoûtés, et c'est quand même un mot très fort.
Voilà, c'était dégoûté, ça que je voulais, pour ça que je
et deux, méfiants vis-à-vis du politique. D'accord. Méfiants. Donc voilà, des affaires comme on voit, et puis il y a eu d'autres affaires plus près de nous à Tizi, avec l'ancien maire.
Alors, je vous dis franchement que j'entends largement une chose dans ce que vous me dites, c'est que le pourcentage est juste énorme. Et c'est terrible. Ça nous fait du mal, ces affaires, à la classe politique. Et tous les élus ne sont pas les mêmes. Mais moi, je vous en donnais d'autres, des cas à l'affaire Cahuzac, les yeux dans les yeux, je n'ai rien fait devant le Parlement. C'est terrible. Maintenant, aujourd'hui, il faut se dire que le politique lui-même, et je ne pèse pas mes mots, et finalement a engendré ce type de désaffection de la classe politique. C'est de la faute du politique. Aujourd'hui, se dire que quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, on est élu, on a la confiance des gens dans le suffrage universel. C'est le côté de la morale et de l'éthique en politique. Et vous avez le côté du pénal qui fait qu'à un moment donné, vous êtes injusticiable comme un autre, vous êtes reconnu coupable ou pas. Aujourd'hui, il y a un mélange des genres de tout ça. Moi, je suis partie prenante de quand à un moment donné, on a fait quelque chose du mal, même au niveau moral, on s'en va. On assume. Et ce que je demande à Gaël Perdriau très clairement, c'est parce que quand on est mis en examen de la sorte, et qu'il se passe ce qu'il se passe. Sur le moral, on s'en va.
Donc il n'y a pas de présomption d'innocence. Pour vous, c'est jugé.
Ah non, non, mais attendez, je vous le redis, je suis juriste. La présomption d'innocence, elle pèse sur tout le monde. Il n'y a pas de problème, c'est le côté du pénal. Mais la présomption d'innocence en politique, quand vous êtes élu avec la confiance des gens, c'est l'éthique et la morale qui prend le dessus. Il y a un fait. Il y a mise en examen. Et puis, pas rien, vous avez quand même des enregistrements. C'est pas comme si je me levais un matin et je dis « Philippe, vous m'avez bousculé alors que c'est pas vrai ». Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui prend le dessus ? C'est un déni de culpabilité. Moi, je le dis souvent, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Il y a le déni du fait qu'évidemment, on est coupable. Il faut juste l'assumer. La présomption d'innocence, elle se respecte d'un point de vue pénal. Et moi, je ne suis pas un magistrat pour dire « telle peine, telle peine, telle peine ». Par contre, je suis une femme politique qui peut dire qu'aux yeux de cette conscience morale et collective, on n'est plus fait pour être à la tête de la ville où on doit incarner la confiance de son équipe qui a mis en place un maire et de la population qui a voté pour un maire.
Encore un sujet qui divise, un sujet d'actualité qui divise, c'est l'uniforme à l'école. Vous seriez pour que des écoles au coteau le testent ? Alors qu'à Rouen, on le sait, Yves Nicolin l'a demandé, mais aucune école n'a répondu favorablement.
Alors écoutez, si on me faisait la proposition effectivement de tester l'uniforme à l'école, j'y répondrais favorablement parce que là où je rejoins les propos de mon collègue maire de Rouen, j'avais cru lire, l'inégalité, c'est vrai. On le voit, vous savez, moi j'ai des enfants, un au collège et une autre, ma fille à l'école élémentaire encore, on voit ce côté, effectivement, de la surmarque permanence, de peut-être parfois l'inéquité ou autre, et si je m'exprime mal, vous m'en excusez. Mais si on me proposait, et puis en tant qu'ancienne conseillère régionale, je sais que le dispositif porté par Laurent dans nos lycées est actif.
Voilà, il y a des lycées pilotes.
Exactement. Donc, à l'époque où j'étais élue dans la majorité de Laurent Wauquiez, on le soulevait déjà. Je sais qu'en plus, pour tout vous dire, et c'est même une fierté, c'est une entreprise costelloise qui a entre autres le marché aussi de l'uniforme, qui confectionne, qui a un marché à ce niveau-là. Donc je le testerais si on venait vers moi en me disant « Écoutez, Madame le maire, nous ça nous intéresse, est-ce qu'on peut solliciter pour être
pilote ?» On n'est pas venu vers vous pour vous.
Non, personne ne m'a demandé.
Oui,
mais je serais, si on me le proposait, pourquoi
mais
pas.
Vous ne pouvez pas vous le demander.
C'est-à-dire que j'ai plus ou moins compris, parce qu'en plus que l'éducation nationale, l'inspection académique proposait, donc ils ont privilégié Rouen parce que c'est la ville-centre, c'est un peu ce que j'ai compris. C'est pas nous qui nous positionnons. Maintenant, je fais passer le message au DAZN, s'ils souhaitent. Pourquoi pas ? Pour la compétence en tout cas des écoles, si on me le propose, oui, pourquoi pas.
En juin 2022, donc votre commune a connu un épisode de grêle dévastateur qui a causé beaucoup de dégâts. Alors, vous avez retrouvé une assurance, je crois, dernièrement. Alors, vous commencez à sortir la tête de l'eau, si j'ose dire. Un petit peu.
Moi, c'est-à-dire que j'espère prendre moins de cheveux blancs maintenant que je suis assurée au titre de la collectivité. Mais c'était un épisode pas facile et que j'ai mis quand même longtemps à digérer. Vous voyez, aussi dans le cadre des fonctions du premier magistrat que je suis. Par contre, on est ravis d'avoir pu effectivement avoir des assureurs locaux. Et vous le savez, l'agence AXA de Rouen gerbe Salk et Moussière. Et je les remercie. Ils nous ont fait une proposition somme toute raisonnable et respectable pour couvrir les dommages aux biens.
Beaucoup plus cher que celle qui était en vigueur avant.
On était à 16 000, l'enveloppe c'était 16 000 et quelques, on est à 38. Donc vous voyez, je suis loin de mes collègues en plus, parce que ça a été aussi un sujet dans le cadre de la gestion des collectivités, qui se sont fait quadrupler ou quintupler leur dotation. Donc non, c'est pas le cas chez nous, la prise en charge là-dessus est somme toute raisonnable. Mais voilà, c'est un événement difficile pour la ville et pour ses administrés également, parce que qu'on soit la gestion publique ou au niveau privé, tout le monde a été touché.
Et la salle des marronniers, c'est en travaux ?
Ça commence.
Ouais, ça commence
voilà, on est dans les derniers, dans les dernières étapes des appels d'offres. Et mais ça va commencer d'ici quelques mois maintenant.
Alors vos projets pour les mois à venir. Donc certains sont freinés, d'autres sont reportés.
Alors plutôt, freiner, reporter, j'ai pour exemple le projet de la gare qui doit accueillir des associations et une galerie au milieu, parce que c'est le plan milieu de gare. C'est-à-dire que le coût que l'on connaît, hein, de l'inflation. Hein. L'inflation, elle est réelle pour tout le monde. Donc, effectivement, dans le cadre de la gestion du denier public, on a été obligé de faire des arbitrages. Hein. On est aussi en attente de subventions. Donc, tout ça fait qu'on prend du retard sur certains projets d'investissement, évidemment. Mmh.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui va se faire, là, dans les mois à venir, l'année prochaine ?
Eh bien, mais il y a la réhabilitation de bâtiments communaux donc, qui s'engage. Il y a la réfection de la tribune Béco qui va s'engager également. On a, en termes d'infrastructures, enfin, on a des plans voiries, en fait. On a un plan voirie assez conséquent avec les entrées de ville, donc porté par mon premier adjoint Jean-Luc Mardeuil. De mémoire, qu'est-ce qu'on a encore ? La réfection du bassin du parc Béco qui se fera avant le printemps 2025.
Et c'est toujours prévu là-bas le projet immobilier ?
Il y a pas un à la place de la piscine. Clos du parc, oui, qui se fait. Là, ça a été décalé aussi. Le promoteur Chazal a été décalé. Donc c'est censé, si tout se passe bien, commencer en juin alors que ça aurait dû commencer en novembre. Effectivement, tout ce contexte-là d'augmentation des matériaux a freiné l'ensemble des investissements. Ouais.
Alors, cette charge au quotidien de maire, donc, vous la vivez comment ?
Écoutez, on vous l'avait dit tout à l'heure, vous faites de la politique depuis un moment. Oui, depuis exactement, vraiment, 2015. On ne m'a jamais forcé. Moi, je me lève les matins, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les personnes, hein, voilà, quand elles vont au travail ou autre, j'ai toujours eu le sourire pour aller au travail, que ce soit à l'hôpital de Roanne ou que ce soit dans la mairie ou au conseil régional ou à Roanne et agglomération. J'ai cette chance de pouvoir faire ce qui me plaît et d'être en phase avec moi-même. Mais je ne vous cache pas qu'au quotidien, c'est une charge conséquente, lourde de responsabilité, fatigante. Mais voilà, on m'a élu pour ça. Hein. Donc souvent, quand on me demande comment vous allez, je réponds, écoutez, moi ça va, je peux pas me plaindre.
Donc vous repartirez en 2026 au Coteau ou peut-être à Roanne ?
Ah, pourquoi à Roanne ?
Ah ben je sais pas, pourquoi pas.
Parce que vous écoutez,
centre,
parce que
vous parlez
que
souvent
je,
de la.
Vous
la
écoutez que je partirai à Roanne, Philippe ?
Non, j'écoute rien, je pose des questions.
Vous savez, celui qui est plus fort que moi et de savoir ce que je vais faire en 2026, bah vous me le présentez. C'est pas dit que je travaille pas avec RVR d'ailleurs en 2026. Pourquoi je prendrai pas votre place
derrière ? Il faut postuler partout.
Donc non, écoutez, moi j'aime ce que je fais et je vous le redis, on a au Coteau la chance d'avoir une ville qui aujourd'hui est capable de montrer tout le dynamisme qu'elle a et la fierté d'être ce qu'elle est, avec plein d'acteurs et tout le tissu économique qui s'y affaire, et c'est une belle fierté. Maintenant, si vous me parlez du travail avec la ville-centre, on a aussi la chance de porter des actions communes, et tout à fait. On a fait des projets communs, mais parce qu'il y a aussi une réalité, vous savez, entre le Roanne et le Coteau, alors ça a souvent été, moi je l'écoutais, hein, 2,5. Bon, en même temps, on a beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire qu'on a même nos bords de Loire qui sont en commun.
Bien sûr, bien sûr.
On a en plus aujourd'hui ce centre de protection urbaine, hein, où la ville du Coteau a sa charge, hein, dedans. Donc c'est plutôt une belle fierté de travailler en partenariat.
Donc vous, repartez au Coteau, c'est tout.
Vous me poserez la question quand j'aurai décidé d'y répondre. Bon. Mais j'aime ce que je fais pour les Costellois.
En tout cas, merci d'être passé par nos studios de Roanne, même si RVR a eu des studios au Coteau
il y a quelques
années.
Merci Philippe.
Votre maire au micro, c'était à l'instant Sandra Creuset-Tête, maire du Coteau. Une interview à réécouter en podcast sur notre site rvrradio.fr.